au fil des pages. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Élodie Courtejoie.
Bonjour, les choses n'ont pas été prévues ainsi. Ainsi est résumé l'objet du roman de Claire Marin en quatrième de couverture de son livre « Hors de moi » paru aux éditions Alia en février 2008. « Hors de moi » est son premier livre, elle vient de recevoir le prix Jean Bernard, 2008, qui récompense une œuvre littéraire ayant trait à la médecine. Claire Marin, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être venue ici au studio de Canal Académie, au cœur de l'Institut de France. Vous êtes docteur en philosophie, professeur agrégé, ancienne élève de l'ENS, et je le précise tout de suite, puisque nous en parlerons au cours de cette émission, vous en parlez dans votre ouvrage. Ouvrage qui est classé comme roman, et pourtant très autobiographique, puisque vous y racontez le fait de vivre avec une maladie auto-immune proche d'une polyarthrite rhumatoïde déclarée très jeune. Mais finalement, la maladie en tant que telle n'est pas le propos de votre livre. D'ailleurs, vous ne la nommez jamais, ou plus exactement, vous parlez de Narcisse. Alors, sans glisser sur la pente du pathos, vous nous racontez votre rapport à cette maladie, un rapport entre haine et amour, comme peuvent le ressentir les personnes touchées par l'anorexie ou la boulimie. Alors ce titre, Hors de moi, j'imagine, revêt plusieurs sens, comme une injonction à la maladie, hors de moi, mais peut-être également comme une transcendance, puisque vous êtes votre propre spectatrice, et puis peut-être hors de moi pour signifier votre colère, Claire Marin.
Oui, c'est ça. Au départ, c'était la colère, qui est un motif assez prégnant dans le texte. Et puis, c'était aussi l'idée d'une extériorisation, de déposer la maladie hors de soi, dans un texte, par exemple.
Pourquoi avoir fait le choix de ne jamais nommer votre maladie ?
Parce qu'il me semblait que ce qui était décrit pouvait être ressenti par des malades qui seraient touchés par une autre pathologie. Et que c'était pas... Il y a des symptômes spécifiques, bien sûr, mais qu'il y avait plus généralement une remise en question d'un mode de vie ou d'espoir de l'individu qui était lié au fait d'être malade, peu importe la maladie en question. Donc c'était pour parler de quelque chose qui peut toucher des individus, quelle que soit la gravité ou la durée de leur maladie.
Alors je le disais en introduction pour vous présenter que c'était un livre, un roman, et pourtant très autobiographique. Alors quelle est la part romancée, quelle est la partie autobiographique ?
La plus grande partie est autobiographique. Peut-être que ce qui est romancé, c'est la fin. C'est-à-dire qu'on m'a reproché une fin assez pessimiste et peut-être que dans mon existence personnelle, je suis un peu moins pessimiste que ce qui est présenté à la fin du roman.
Dans votre ouvrage, justement, et on va entrer dans le vif du sujet, il y a comme ce système de montagne russe, d'ailleurs, que le terme que vous utilisez, où il y a des moments où il y a des crises, donc bien sûr, le moral ne suit pas, et puis il y a des moments, heureusement, plus agréables. Et l'avant-dernier chapitre, avant d'arriver à la fin, il y a ce moment miraculeux avant cette chute, effectivement, assez pessimiste. C'est aussi tout le problème de ce genre de maladie,
oui.
Où en fait, par crise, on a le moral qui joue aussi montagne russe.
Exactement, c'était ce que je voulais traduire, c'était l'impossibilité de s'établir dans la durée. Le fait d'être toujours soumis à un rythme qui est extérieur à soi, et donc de devoir être constamment dans l'urgence. Quand on a un projet, il faut le réaliser tout de suite, parce qu'on ne sait pas si le lendemain on aura l'énergie de le continuer. Donc c'était ce rythme-là d'alternance imprévisible que je voulais restituer.
Alors je vais vous citer plusieurs fois, si vous me le permettez, et puis on va rediscuter ensemble. Au début, en préambule, donc vous expliquez « Le discours de la maladie est presque toujours négatif. Discours de la restriction et du renoncement, il rappelle ce que l'on ne doit pas faire, code de la vie revu et appauvri. Mais la maladie réveille aussi une sensibilité qui s'était endormie, tout devient plus émouvant. » Elle introduit un nouveau rythme, non pas comme on pourrait le croire, le rythme lent de ceux dont le corps est freiné par les douleurs, mais au contraire, elle accélère l'existence, elle contraint à une philosophie de l'instant présent qui doit être intense, fort et sans concession. Claire Marin, vit-on plus intensément lorsque l'on est malade ?
Je pense que là encore, il y a des réponses individuelles, Mais la manière dont je l'ai ressenti personnellement, c'était ce que j'ai essayé de traduire là, c'est-à-dire effectivement d'une intensification, comme s'il n'y avait plus de temps à perdre et qu'il fallait profiter, voilà, c'est un cliché, mais profiter des moments qui étaient préservés par la maladie, enfin, que la maladie n'avait pas atteint.
Vous parlez bien sûr de la vie de tous les jours, des crises, paradoxalement aussi la colère contre cette maladie qui vous donne de l'énergie, de faire attention à ne pas déverser le flot d'orage vers ceux qui vous entourent. La famille, les proches, sont-ils les meilleurs piliers quand on est touché par une maladie que l'on garde indéfiniment ?
Je ne suis pas sûre, parce qu'eux-mêmes sont atteints par cette maladie, par contamination, c'est-à-dire eux aussi sont déprimés par le diagnostic, les crises, etc. Ils vivent aussi un peu par procuration la maladie qui les empêche d'être aussi heureux qu'ils auraient le droit de l'être. Et je ne pense pas que ce soit forcément la solution. Là encore, c'est très individuel. Hein. Mais ce que peut ressentir un proche, c'est surtout la culpabilité, de l'impuissance, le fait de ne pas pouvoir soulager ou de ne pas pouvoir prendre la douleur. Et c'est des phrases qu'on entend parfois chez les parents d'enfants malades qui disent « je préférerais que ce soit moi qui sois malade ». Donc je ne suis pas sûre que le soutien vienne de ceux qui sont déjà fragilisés. Ou en tout cas, je ne suis pas sûre qu'il faille l'attendre d'eux. Parce que c'est sans doute encore redoubler leur peine qui est déjà assez forte. Je pense que le soutien peut venir parfois d'autres malades, par leur exemple ou la manière dont ils réussissent à trouver des biais pour contourner les obstacles posés par la maladie, ou parfois par le fait de, au contraire, être avec des gens pour qui la maladie est complètement étrangère et pendant un moment être dans un cadre où la maladie n'existe plus.
Et faire semblant ?
Oui, faire semblant, c'est parfois la seule solution.
Le déni peut aider justement la personne malade à sortir hors de l'eau.
Faire semblant, pas forcément du déni, mais comme un rôle qu'on joue pendant un certain temps, sachant que c'est un rôle, mais en trouvant un plaisir à jouer ce rôle.
Vous écrivez, toujours pour poursuivre sur cette vie de tous les jours, que la maladie isole, bien sûr. Vous écrivez « J'apprends à me taire. On ne comprend pas que je sois désormais incapable de vivre comme avant. On exige de moi que je mente. Je tais ma douleur aux proches et aux amis. Sans doute n'ont-ils pas cette impression, mais même en me taisant, il se peut que j'en parle déjà trop. » Est-ce que la maladie agace au bout d'un moment ?
Oui, surtout les maladies qui ne se soignent pas. Parce que ça lasse, évidemment, ça lasse le malade lui-même, mais ce sentiment d'impuissance, cette culpabilisation qu'on peut ressentir à côté du malade, au bout d'un moment, oui, elle est agaçante. Et je pense que c'est une solution de taire certains symptômes plutôt que de les répéter indéfiniment, sachant qu'ils ne disparaîtront pas de toute manière.
Mais ça finit par ronger aussi intérieurement quand on n'arrive pas forcément à verbaliser ce que l'on ressent.
C'est pour ça qu'il faut l'écrire.
Il faut l'écrire comme vous le faites dans
un mois. Pour trouver un autre support, ça peut être une création artistique, etc. L'extérioriser, oui, mais peut-être pas auprès de ceux qui, de toute façon, ne peuvent rien faire pour ces symptômes.
Vous écrivez, je poursuis hein, dans les citations, une phrase que je trouve tristement belle à la fin de ce paragraphe que je vais donc lire. « Le malade est idiot. Enfermé dans sa douleur, dans son corps qui le torture, dans sa tête obsédée par la maladie ou possédée par la souffrance, il ne parle plus comme les autres. Il ne conjugue plus qu'avec prudence ses phrases au futur. Il est un être du conditionnel. » Il n'y a pas de futur possible. Lorsque l'on est malade, il y a des moments comme ça où on ne fait pas de projet, on ne fait plus de projet.
On les fait toujours avec un « si », avec une hypothèse de départ, avec prudence. Ce qui en réalité est le lot de n'importe qui. C'est-à-dire personne ne peut affirmer avec certitude qu'il fera ce qu'il dit qu'il va faire. Mais là, c'est ce caractère conditionnel des actions. Il est très sensible, très, très présent à la conscience.
Est-ce que ça n'est pas paradoxal avec ce que vous m'aviez dit au début de cette émission sur le fait que l'on vit plus intensément et avec cette notion d'intensité, peut-être à l'envie de faire plus de choses dans un laps de temps plus court et donc du coup faire des projets peut-être à court terme, effectivement, mais d'engranger de l'information, de la connaissance.
Oui, alors il y a un côté un peu frénétique, une espèce de boulimie, et en même temps une incapacité, effectivement, de se projeter. Il y a beaucoup de choses qui sont contradictoires, de toute façon, dans la situation du malade. Mais on est vraiment, à chaque fois, à mon avis, dans un laps de temps assez court, et pas dans la projection sur la durée. Et quand on s'autorise ce genre de projection sur la durée, précisément, on va être très prudent avec la formulation. Parfois même, on va se l'interdire dans une espèce de frustration qu'on s'impose, ou de prudence, ou de superstition peut-être.
Il y a aussi la transformation du corps, hein, qui est présente tout au long de votre ouvrage. Une description médicale assez froide, totalement dénuée de sentiments. Alors, vous parlez de votre propre corps. J'imagine que c'est aussi pour décrire aussi ce milieu médical où les choses sont faites avec beaucoup de froideur, où le sentiment n'est pas là. Vous parlez de des faiblesses osseuses, de la fonte des muscles, des veines visibles sous la peau amincie avec la prise de corticoïdes, de cette étrange habitude de se réveiller la nuit dans des positions absurdes. Et je vous cite, comme si les charnières de mes articulations s'étaient recroquevillées. Il y a quelque chose du domaine de l'enquêteur, vous savez, comme sur un lieu du crime, où il y a des traces, et vous décrivez froidement ce qui se passe, et en l'occurrence c'est votre corps. Pourquoi cette distanciation, elle est nécessaire pour écrire sur soi ?
Peut-être aussi pour traduire l'étonnement du malade vis-à-vis de ses propres symptômes. C'est-à-dire qu'avant que le diagnostic soit posé, ce qui peut parfois prendre beaucoup de temps pour ce type de maladie, on a tout un tas d'indices qui semblent déroutants, qui ne font pas sens. Et donc cette distance, c'est aussi le constat de choses qui semblent absurdes, dont on ne comprend pas l'articulation entre elles. C'est le principe de ces maladies systémiques, où on a beaucoup de symptômes, dont certains semblent très négligeables. Donc on a plein de données, et il faut essayer de reconstituer un tout cohérent avec ces données. Donc c'est un peu comme un puzzle. C'était aussi ce qu'on voulait traduire. Mais sinon, vous avez raison, il y a évidemment le discours distancié, parfois froid, parfois même cynique, de la parole médicale qui est retraduite par ce style particulier.
Et nous allons bien sûr y venir à ce milieu médical. Auparavant, vous parlez également des termes qui mettent mal à l'aise, ne serait-ce qu'à la lecture, de giclées, de douleurs au creux des poignets, dans les bras, dans les hanches. On a l'impression, même en lisant, qu'on va à la lecture, on les tord nous-mêmes, ces poignets, ces articulations. Il y a tout un vocabulaire, j'imagine, qui est bien sûr travaillé, choisi.
Oui, le but, c'était de dépasser quelque chose que je trouve assez agaçant en tant que malade. C'est le fait que les douleurs du patient soient souvent très stéréotypées dans des images clichés qui reviennent systématiquement dans la bouche des médecins. Donc forcément, quand on a mal aux articulations, elles sont rouillées, il faut les dérouiller. Enfin, on va voir toujours les mêmes images qui ne ressemblent pas aux douleurs que les patients ressentent. Donc au bout d'un moment, le patient comprend que c'est ça qu'il faut dire pour que le médecin comprenne ce qu'il a. Mais ce que je voulais, c'était montrer que si on faisait un petit effort de vocabulaire, on pouvait parfaitement traduire, en tout cas le mieux possible, ce que ressentait le malade. Et qu'au lieu de toujours se référer à des clichés qui n'ont parfois rien à voir avec les symptômes, on pouvait faire cet effort de description pour aussi rendre la douleur compréhensible.
Venons-en à ce milieu médical assez froid. Là encore, je vais vous citer dans un paragraphe un peu plus long sur le milieu hospitalier. « Je suis nue sur la table d'opération, sur ce lit d'hôpital devant l'appareil de radiologie. On m'a dit d'attendre. Bientôt, j'en aurai l'habitude. Je n'essaierai plus vainement de cacher derrière mes bras et mes mains mes seins ou mon sexe. Bientôt, mon corps me sera indifférent. Je les laisserai le manipuler comme s'ils ne me touchaient pas. Quand ils auront tout vu, tout exploré, il ne m'appartiendra plus. » Il sera détaché de moi, définitivement converti en objet extérieur. Qu'y a-t-il alors d'étonnant à ce que je le méprise, le néglige, le maltraite ? N'est-ce pas ce qu'ils m'ont appris à faire ? Donc il y a une désappropriation du corps, et vous-même, vous venez à ne plus aimer ce que vous êtes, ce que vous devenez.
Oui, c'est-à-dire à force de le voir traité comme une chose extérieure, on adopte aussi ce point de vue sur le corps, et c'est d'autant plus facile qu'il est la source de la douleur. Donc le rejeter, le mépriser, non seulement c'est une réaction quasiment spontanée, de défense presque, mais c'est aussi une position qui semble légitimée par celle du corps médical lui-même. Donc cette dissociation un peu schizophrénique du malade, elle est quasiment inévitable.
Vous parlez également d'un morceau de viande. On vous traite comme un morceau de viande. Vous avez un regard assez noir sur le milieu médical.
Oui, alors c'est la critique la plus fréquemment formulée. Ce que je constate, c'est que dans les témoignages des autres malades que je reçois, de lecteurs, finalement, certains trouvent que j'ai été un peu douce avec le milieu médical. Donc, en tout cas, cette expérience d'une forme de violence, je ne suis visiblement pas la seule à la faire. Ce qui est sûr aussi, c'est que c'est un livre de colère. Il pourrait aussi y avoir tout un livre de remerciements à l'encontre de tous ceux qui, dans le milieu médical, ont été d'un soutien précieux. Mais là, il y a aussi un parti pris où c'est toute la violence de l'expérience de la maladie qui est concentrée. C'est aussi une période particulière, le moment où la maladie est la plus difficile à supporter. Donc le vrai moment de face à face, par la suite, effectivement, il y a d'autres rapports à la médecine possibles. Mais sur ce genre de violence, c'est quand même quelque chose qui me semble relativement courant. J'ai eu un certain nombre de témoignages de femmes qui disaient qu'elles l'avaient découvert au moment de leur grossesse et de leur accouchement. Donc ça touche peut-être plus que ce qu'on croit les personnes hospitalisées pour des raisons tristes ou joyeuses.
On poursuit sur un épisode de péritonite. Mm-hmm. Vous entrez à l'hôpital. Alors, bien sûr, vous arrivez aux urgences parce que c'est à traiter, bien sûr, rapidement, au milieu de la nuit. Il faut faire venir le médecin qui va venir vous anesthésier, vous opérer. Et il a une phrase assez blessante. Et plus tard, au lendemain de l'opération, il vous revoit, il vous demande des détails pour connaître votre situation, puisque votre mutuelle lui paraît un peu louche. Mmh. Et en lui disant que vous êtes donc à l'école normale supérieure, à l'ENS, le regard change du tout au tout. À partir du moment où on a une personne avec un cerveau, on va dire, on s'adresse différemment au patient. Là, le coup, le patient devient quelqu'un.
Oui, il y a, une tendance qui doit être assez forte à l'infantilisation, parfois, du malade, ou au mépris, ça arrive aussi. C'est pas systématique, mais et tout d'un coup, lorsque le statut du malade qu'on n'avait pas deviné apparaît comme méritant, entre guillemets, bien sûr, un certain respect ou une certaine attitude, la hiérarchie sociale réapparaît. Alors que lorsqu'on est nu sur une table d'opération, effectivement, rien n'est visible. Donc il se joue aussi on voit des retours d'habitudes sociales dans un milieu qui parfois les met complètement à distance.
Pour aller dans votre sens, je vais encore vous citer. Et ce médecin, donc il s'est fait prendre au piège le plus élémentaire, celui de la nudité. Cette manière qu'a la maladie de nous mettre sur un pied d'égalité dans le dénuement, la vulnérabilité, l'impuissance, l'insignifiance. Nu, je ne suis plus personne.
Là, sur le point, c'était évidemment la nudité concrète du corps et puis une espèce de mise à nu psychologique, en fait, du malade qui est complètement démuni par la situation dans laquelle il se trouve. La plupart du temps, il ne comprend rien à ce qui se passe autour de lui. Donc, psychologiquement, on est aussi nu, sans défense. Donc, c'était le premier titre auquel j'avais pensé, nu, pour essayer de traduire ce double sentiment de vulnérabilité.
En avançant dans votre ouvrage, finalement, on comprend que vous, en fait, en écrivant cet ouvrage, vous savez déjà ce que vous avez, mais en fait, les médecins, on avance de manière chronologique, on devine petit à petit qu'en fait, j'imagine que ce sont des troubles psychosomatiques, c'est-à-dire que c'est le propre pouvoir de la pensée qui vous rend malade, mais que vous vous imaginez des maladies, en d'autres termes. Et c'est en rencontrant un psychiatre qui vous redirige vers un rhumatologue parce qu'il a des doutes, que enfin on met un nom sur votre maladie.
Oui, c'est tout un labyrinthe. Et là, pour le coup, alors là, le CV dessert, puisque lorsqu'on a la mauvaise idée de faire des études de philosophie, on est à deux doigts de la folie. Donc, la première tendance, effectivement, c'est d'aller vers l'hypocondrie ou la somatisation. Et au départ, donc, tous ces symptômes un peu étranges, on les met sur le compte d'un surmenage ou d'une obsession de la maladie. D'autant plus que dans mon entourage, à cette époque, il y a un certain nombre de malades aussi. Donc, peut-être par espèce de culpabilité, j'aurais reproduit leurs symptômes. Donc, ce qui aurait pu, d'une manière très simple, les indiquer sur la voie d'une pathologie qui était proche de celle qui était autour de moi, en fait, fait faire un énorme détour par la possibilité d'une somatisation. Et le psychiatre en question, au bout d'un moment, effectivement, commence à s'interroger sur des raisons qui seraient organiques. Et donc, au moment où j'ai l'impression de devenir le plus folle, c'est là qu'il identifie un symptôme qui est sans doute, qui met définitivement sur la bonne voie.
Est-ce que c'est une délivrance de pouvoir enfin mettre un nom sur une maladie réelle et non pas imaginée ?
Oui, bien sûr. Quand bien même le pronostic sera difficile, C'est une vraie délivrance de s'entendre dire, après plusieurs années, qu'on n'a pas tout imaginé.
Ce livre, vous l'avez rédigé d'une seule traite ou alors ça vous a pris plusieurs années? D'accord, c'était une manière d'expulser ce mal?
Ouais, il a été rédigé assez vite. En fait, j'avais travaillé dans un ouvrage universitaire sur la maladie. Et en travaillant sur cet ouvrage, je ressentais une espèce de frustration à ne pas pouvoir parler en première personne de cette expérience. Et du coup, ce texte, à partir du moment où j'ai commencé à le rédiger, a été écrit effectivement assez vite, quasiment d'un jet.
Vous parliez au cours de l'émission des témoignages que vous aviez reçus. Et j'imagine que ce ne doit pas forcément être évident de recevoir des témoignages qui, je le pense, sont des personnes qui ont eu les mêmes problèmes, ou en tout cas des similitudes avec vous, et vous font part en fait de leur maladie. Et du coup, vous reprenez sur vos épaules le mal d'autres personnes. Vous y attendiez à ça?
Non, je n'avais pas très bien évalué effectivement le type de courrier que je pouvais recevoir. D'autant que c'est souvent des témoignages de situations très très sérieuses. C'est-à-dire comme le texte parle du moment de crise, finalement ce moment de crise pour certains malades, c'est la totalité de leur expérience. Donc effectivement, les courriers que je reçois, c'est souvent des courriers de malades qui sont très gravement touchés, parfois en fin de vie, parfois très jeunes, ou qui ont connu des expériences très difficiles dont ils ne se remettent pas. Donc c'est des courriers, effectivement, que je mets un certain temps à digérer, entre guillemets. Donc j'essaie de répondre, mais parfois il me faut un peu de temps pour dépasser le propre abattement qui découle forcément de la lecture de ces courriers. Et puis aussi des courriers de conseils.
Ah, c'est vrai, on vous donne des conseils?
Oui, sur les traitements, sur les hôpitaux. Donc là, c'est plus le réseau des malades qui essaie de se soutenir. Et puis des courriers très étranges, comme dans tous les courriers. Où...
Des admirateurs?
Non, pas des admirateurs, plutôt. Enfin, je pense à un courrier en particulier d'une personne qui pensait qu'il ne fallait pas dire ce qu'il y avait de mauvais, qu'il fallait essayer d'avoir toujours un discours positif et que ce type de livre pouvait être décourageant. Donc on a plusieurs types de discours, évidemment.
Je vous remercie, Claire Marin. Je rappelle le titre de votre ouvrage « Hors de moi » paru aux éditions Alia en février 2008, qui a donc reçu le prix Jean Bernard. J'imagine que vous préparez un autre ouvrage?
Tout à fait.
Qui portera sur
Qui exploitera l'un des petits moments de bonheur envisagés dans « Hors de moi ».
Donc vous faites peut-être un petit signe à cette personne qui vous a envoyé un courrier voilà. Pour parler du positif, la méthode Coué peut-être. Je vous remercie, Claire Marin, et puis j'espère une prochaine fois pour une prochaine émission. Au revoir.
Merci.